Sénèque, Lettre à Lucilius, Livre 2, Lettre 13. Sur la force d'âme qui convient aux sages. Ne pas trop craindre l'avenir. Ton courage est grand, je le sais. Avant même de t'être armé de ces préceptes qui nous sauvent, qui triomphent des plus rudes atteintes, tu étais, en face de la fortune, assez sûr de toi, bien plus sûr encore quand tu en es venu aux mains avec elle et que tu as mesuré tes forces. Et qui peut jamais se fier fermement aux siennes s'il n'a vu mille difficultés surgir de toutes parts et quelquefois le serrer de près. Pour une âme énergique et qui ne pliera sous le bon plaisir de personne, voilà l'épreuve, la vraie pierre de touche. L'athlète ne saurait apporter au combat toute l'ardeur nécessaire s'il n'a jamais reçu de contusion. Celui qui a vu couler son sang, dont les dents ont craqué sous le ceste, qui, renversé, a supporté le poids de l'adversaire étendu sur lui, que l'on a pu abattre sans abattre son courage, qui, à chaque chute, s'est relevé plus opiniâtre, celui-là, descend plein d'espoir dans l'arène. Ainsi, pour suivre la similitude, souvent la fortune t'a tenu sous elle, et, loin de te rendre, dégagé d'un seul bond, tu l'as attendu plus fièrement. La vertu croît et gagne au coup qu'on porte. Toutefois, si bon te semble, accepte de moi de nouveaux moyens de résistance. Il y a, ô Lucilius, plus de choses qui font peur qu'il n'y en a qui font mal, et nos peines sont plus souvent d'opinion que de réalité. Je te parle ici le langage non des stoïciens, mais de l'autre école, moins hardie. Car nous disons, nous, que tout ce qui arrache à l'homme la plainte ou le cri des douleurs, tout cela est futile et à dédaigner. Oublions ces doctrines si hautes et néanmoins si vraies. Ce que je te recommande, c'est de ne pas te faire malheureux avant le temps. Car ces mots, dont l'imminence apparente te fait pâlir, peut-être ne seront jamais, à coup sûr ne sont point encore. Nos angoisses parfois vont plus loin, parfois viennent plutôt qu'elles ne doivent. Souvent, elles naissent d'où elles ne devraient jamais naître. Elles sont ou excessives, ou chimériques, ou prématurées. Le premier de ces trois points étant controversé, et le procès restant indécis, n'en parlons pas quant à présent. Ce que j'appellerais léger, tu le tiendrais pour insupportable. Et je sais que des hommes rient sous le coup des trivières, que d'autres se lamentent pour un soufflet. Plus tard, nous verrons si c'est d'elles-mêmes que ces choses tirent leur force ou de notre faiblesse. En attendant, promets-moi, quand tu seras assiégé d'officieux qui te démontreront que tu es malheureux, de ne point juger sur leur dire, mais sur ce que tu sentiras. Consulte ta puissance de souffrir. Appelle-en à toi-même qui te connais mieux que personne. D'où me viennent ces condoléances? Quelle peur agitent ces gens? Ils craignent jusqu'à la contagion de ma présence comme si l'infortune se gagnait. Y a-t-il ici quelque mal réel? Ou la chose ne serait-elle point plus décriée que funeste? Adresse-toi à cette question. N'est-ce pas sans motif que je souffre, que je m'afflige? Ne fais-je point un mal de ce qui ne l'est pas? Mais comment voir si ce sont chimères ou réalités qui causent mes angoisses? Voici à cet égard la règle. Ou le présent fait notre supplice, ou c'est l'avenir, ou c'est l'un et l'autre. Le présent est facile à apprécier. Ton corps est-il libre? Est-il saint? Aucune disgrâce n'affecte-t-elle ton âme? Nous verrons comment tout ira demain. Pour aujourd'hui, rien n'est à faire. Mais demain arrivera. Examine d'abord si des signes certains présagent la venue du mal. Car, presque toujours, de simples soupçons nous abattent, dupes que nous sommes de cette renommée, qui souvent défait des armées entières, à plus forte raison des combattants isolés. Oui, cher Lucilius, on capitule trop vite devant l'opinion. On ne va point reconnaître l'épouvantail. On n'explore rien. On ne sait que trembler et tourner le dos comme les soldats que la poussière, soulevée par des troupeaux en fuite, a chassés de leur camp. Ou qu'un faux bruit semé sans garant frappe d'un commun effroi. Je ne sais comment le chimérique alarme toujours davantage. C'est que le vrai a sa mesure et que l'incertain avenir reste livré aux conjectures et aux hyperboles de la peur. Aussi n'est-il rien de si désastreux, de si irrémédiable que les terreurs paniques. Les autres ôtent la réflexion, celle-ci jusqu'à la pensée. Appliquons donc ici toutes les forces de notre attention. Il est vraisemblable que tel mal arrivera, mais est-ce là une certitude? Que de choses surviennent sans être attendues, que de choses attendues ne se produisent jamais. Dût-il même arriver, à quoi bon courir au-devant du chagrin? Il se fera sentir assez tôt quand il sera venu. D'ici là, promets-toi meilleure chance. Qui gagneras-tu? Du temps. Mille incidents peuvent faire que le péril le plus prochain, le plus imminent, s'arrête ou se dissipe ou aille fondre sur une autre tête. Des incendies ont ouvert passage à la fuite. Il est des hommes que la chute d'une maison a mollement déposés à terre. Des têtes déjà courbées sous le glaive l'ont vu s'éloigner, et le condamné a survécu à son bourreau. La mauvaise fortune aussi a son inconstance. Elle peut venir comme ne venir pas. Jusqu'ici elle n'est pas venue. Vois le côté plus doux des choses. Quelquefois, sans qu'il apparaisse aucun signe qui annonce le moindre malheur, l'imagination se crée des fantômes, ou c'est une parole de signification douteuse qu'on interprète en mal, ou l'on s'exagère la portée d'une offense, songeant moins au degré d'irritation de son auteur qu'à tout ce que pourrait sa colère. Or, la vie n'est plus d'aucun prix, nos misères n'ont plus de terme, si l'on craint tout ce qui en fait de maux est possible. Que ta prudence te vienne en aide. Emploie ta force d'âme à repousser la peur du mal, même le plus évident. Sinon, combats une faiblesse par une autre. Balance la crainte par l'espoir. Si certain que soient les motifs qui effraient, il est plus certain encore que la chose redoutée peut s'évanouir, comme celle qu'on espère peut nous décevoir. Pèse donc ton espoir et ta crainte, et si l'équilibre en somme est incertain, penche en ta faveur et crois ce qui te flatte le plus. As-tu plus de probabilité pour craindre? N'en incline pas moins dans l'autre sens et coupe court à tes perplexités. Représente-toi souvent combien la majeure partie des hommes, alors qu'ils n'éprouvent aucun mal, qu'il n'est pas même sûr s'ils en éprouveront, s'agitent et courent par tout chemin. C'est que nul ne sait se résister une fois l'impulsion donnée, et ne réduit ses craintes à leur vraie valeur. Nul ne dit « Voilà une autorité vaine, vaine de tout point. cet homme est fourbe ou crédule ? On se laisse aller au rapport. Où il y a doute, l'épouvante voit la certitude. On ne garde aucune mesure. Soudain, le soupçon grandit en terreur. J'ai honte de te tenir un pareil langage et de t'appliquer d'aussi faibles palliatifs. Qu'un autre dise, peut-être cela n'arrivera-t-il pas, tu diras, toi, et quand cela arriverait, nous verrons qui sera le plus fort. Peut-être sera-ce un heureux malheur, une mort qui honorera ma vie. La ciguë a fait la grandeur de Socrate. Arrache à Caton le glaive qui le rendit à la liberté, tu lui ravis une grande part de sa gloire. Mais c'est trop longtemps t'exhorter, car toi, c'est d'un simple avis, non d'une exhortation que tu as besoin. Nous ne l'entraînons pas dans un sens qui répugne à ta nature. Tu es né pour les choses dont nous parlons. Tu n'en dois que mieux développer et embellir ces heureux dons. Mais voici ma lettre finie. Je n'ai plus qu'à lui imprimer son cachet, c'est-à-dire quelques belles sentences que je lui confierai pour toi. L'une des misères de la déraison, c'est de toujours commencer à vivre. Apprécie ce que ce mot signifie, ô Lucilius, le plus sage des hommes, et tu verras combien est choquante la légèreté de ceux qui donnent chaque jour une base nouvelle à leur vie, qui ébauchent encore près d'en sortir de nouveaux projets. Regarde autour de toi chacun d'eux. Tu rencontreras des vieillards qui, plus que jamais, se préparent à l'intrigue, au lointain voyage, au trafic. Quoi de plus pitoyable qu'un vieillard qui débute dans la vie? Je ne joindrais pas à cette pensée le nom de son auteur si elle n'était assez peu connue et en dehors des recueils ordinaires d'Épicure, dont je me suis permis d'applaudir et d'adopter les mots. Lettre 14. Jusqu'à quel point il faut soigner le corps. Je l'avoue, la nature a voulu que notre corps nous fût cher. Je l'avoue encore, elle nous en a commis la tutelle. Je ne nie pas qu'on ne lui doive quelque indulgence, mais qu'il faille en être esclave, je le nie. On se prépare trop de tyrans dès qu'on s'en fait un de son corps, dès qu'on craint trop pour lui, dès qu'on rapporte tout à lui. Il faut se conduire dans la pensée que ce n'est pas pour le corps qu'on doit vivre, mais qu'on ne peut vivre sans le corps. Si nous lui sommes trop attachés, nous voilà agités de frayeurs, surchargés de soucis, en butte à mille déplaisirs. Le beau moral est bien peu de chose aux yeux de l'homme pour qui le physique est tout. Donnons au corps tous les soins qu'il exige, mais sachons, dès que l'ordonnera la raison, ou l'honneur, ou le devoir, le précipiter dans les flammes. Néanmoins, autant que possible, évitons tout genre de malaise, non pas seulement tout péril. Retirons-nous en lieu sûr, veillant sans cesse à écarter les choses que ce corps peut craindre. Elles sont, si je ne me trompe, de trois sortes. Il a peur de l'indigence, peur des maladies, peur des violences de plus puissants que lui. De tout cela, rien ne nous frappe plus vivement que les menaces de la force, car c'est à grand bruit, c'est avec fracas qu'elles arrivent. Les maux naturels dont je viens de parler, l'indigence et les maladies, se glissent silencieusement. L'œil ni l'oreille n'en reçoivent nulle impression de terreur. L'autre fléau marche en grand appareil, le fer et les feux l'environnent, et les chaînes et une meute de bêtes féroces qu'il lâche sur des hommes pour les éventrer. Figure-toi ici les cachots et les croix et les chevalets et les crocs, et l'homme assis sur un fer aigu qui le traverse et lui sort par la bouche. Et ses membres écartelés par des chars, poussés en sens divers. Et cette tunique enduite est tissue de tout ce qui alimente la flamme, et tout ce qu'a pu en outre imaginer la barbarie. Non, il n'est pas étonnant que nos plus grandes craintes nous viennent d'un ennemi dont les supplices sont si variés et les apprêts si formidables. Comme le bourreau terrifie d'autant plus qu'il étale plus d'instruments de torture, car l'appareil triomphe de qui eût résisté aux douleurs, de même, parmi les choses qui subjuguent et domptent nos âmes, les plus puissantes sont celles qui ont de quoi parler aux yeux. Il y a des fléaux non moins graves, tels que la faim, la soif, les ulcères intérieurs, la fièvre qui brûle les entrailles. Mais ceux-là sont cachés. Ils n'ont rien à montrer qui menace, qui soit pittoresque. Les autres sont comme ces grandes armées dont l'aspect et les préparatifs seuls ont déjà vaincu. Veillons donc à n'offenser personne. C'est tantôt le peuple que nous devons craindre, tantôt, si la forme du gouvernement veut que la majeure partie des affaires se traite au Sénat, ce seront les hommes influents. Ce sera parfois un seul personnage investi des pouvoirs du peuple et qui a pouvoir sur le peuple. Avoir tous ces hommes pour amis est une trop grande affaire. C'est assez de ne pas les avoir pour ennemis. Aussi, le sage ne provoquera-t-il jamais le courroux des puissances. Il nous voira comme le navigateur devant l'orage. Quand tu es allé en Sicile, tu as traversé le détroit. Ton téméraire pilote ne tint pas compte des menaces de l'austère, de ce vent qui soulève les flots de ces parages et les roule en montagne. Au lieu de chercher la côte à sa gauche, il se jeta sur celle où le voisinage de Charybde te met aux prises les deux mers. Un plus avisé demande à ceux qui connaissent les lieux quel est ce bouillonnement, ce que pronostiquent les nuages, et il dirige sa course loin de ces bords tristement célèbres par leurs gouffres tournoyants. Et ainsi agit le sage. Il évite un pouvoir qui peut nuire, prenant garde avant tout de paraître l'éviter. Car c'est encore une condition de la sécurité que de ne pas trop faire voir qu'on la cherche. Tu me fuis, donc tu me condamnes. J'ai dit qu'il faut songer à se garantir du côté du vulgaire. D'abord, n'ayant aucune de ces convoitises, les rixes s'élèvent entre concurrents. Ensuite, ne possédons rien que la ruse et grand profit à nous ravir. Que ta personne offre le moins possible aux spoliateurs. Nul ne verse le sang pour le sang. Ces monstres, du moins, sont bien rares. On tue par calcul plus souvent que par haine. Le brigand laisse passer l'homme qui n'a rien sur lui. Sur la route la plus infestée, il y a paix pour le pauvre. Reste trois choses qu'un ancien adage nous prescrit d'éviter. La haine, l'envie, le mépris. Comment y réussir? La sagesse seule nous le montrera. Il est difficile, en effet, de tenir un milieu. Je risque de tomber dans le mépris par crainte de l'envie. Et si je me fais scrupule d'écraser personne, on peut me croire fait pour être écrasé. » Beaucoup eurent sujet de trembler parce qu'ils pouvaient faire trembler les autres. À tout égard, prenons nos sûretés. Il n'en coûte pas moins d'être envié que méprisé. Que la philosophie soit notre refuge. Son culte est comme un sacerdoce révéré des bons, révéré même de ceux qui ne sont méchants qu'à demi. L'éloquence du forum, tous ces prestiges de la parole qui remuent les masses, ont leurs antagonistes. La philosophie, pacifique et tout à son œuvre, ne donne point prise au dédain, car tous les arts et les hommes, même les plus pervers, s'inclinent devant elle. Non, jamais la dépravation, jamais la ligne ennemie des vertus, ne prévaudront tellement que le titre de philosophe ne demeure vénérable et saint. Qu'au reste, notre manière de philosopher soit paisible et modeste. Mais, diras-tu, te semble-t-elle modeste la philosophie de Caton qui veut repousser la guerre civile avec une harangue, qui se jette au milieu des fureurs et des armes des deux plus puissants citoyens, et tandis que les uns combattent Pompée, les autres César, attaquent tous les deux à la fois? On peut mettre en doute si alors le sage devait prendre en main les affaires publiques. Que prétends-tu, Caton? Il ne s'agit plus de la liberté. Depuis longtemps, c'en est fait d'elle. C'est à qui, de César ou de Pompée, appartiendra la République? Qu'as-tu à faire en cette triste lutte? Tu n'as point ici de rôle. On se bat pour le choix d'un maître. Que t'importe qui triomphera? Le moins méchant peut vaincre, mais le vainqueur sera forcément le plus coupable. Je ne prends ici, Caton, qu'au dénouement. Mais les années même qui précédèrent n'étaient pas faites pour souffrir un sage dans ce pillage de la République. Caton fit-il autre chose que frapper l'air de clameurs et s'épuiser en vaines paroles? Lorsque, enlevé par tout un peuple, jeté de main en main et couvert de crachats, il fut arraché du forum ou qu'il se vit du Sénat traîné en prison. Mais nous examinerons plus tard si le sage doit intervenir en pure perte. En attendant, je te renvoie à ces stoïciens qui, exclus des affaires publiques, ont embrassé la retraite pour cultiver l'art de vivre et donner au genre humain le code de ses droits, sans choquer en rien les puissances. Le sage ne doit point heurter les usages reçus, ni attirer sur lui, par l'étrangeté de sa vie, les regards de tous. Le voilà donc à l'abri des écueils s'il suit cette ligne de conduite? Je ne puis te garantir cela, pas plus qu'à un homme tempérant la santé, bien que la santé soit le fruit de la tempérance. Des vaisseaux périssent dans le port. Mais que penses-tu qu'il arrive en pleine mer? Combien n'est-on pas plus près du danger quand on exécute et projette mille choses, si le repos même n'est pas une sauvegarde? L'innocent succombe quelquefois. Qui le nie? Mais le plus souvent, c'est le coupable. L'honneur de l'art est sauf quand on reçoit le coup à travers la garde de son épée. En un mot, dans toute affaire, c'est la prudence que le sage consulte, non le résultat. Les commencements dépendent de nous. L'événement est la décision du sort, auquel je ne donne pas juridiction sur moi. Mais les vexations qu'il apporte me les traverse. Brigand qui tue n'est pas juge qui condamne. Maintenant, tu tends la main vers ta stipende journalière. tu l'auras, pleine d'or pur. Et puisque c'est d'or qu'il s'agit, voici le secret d'en user et d'en jouir avec plus de charme. Celui-là jouit le plus des richesses qui a le moins besoin d'elles. L'auteur, me diras-tu? Vois combien j'ai l'âme bonne. Je m'avise de louer ce qui n'est pas de nous. C'est d'Épicure ou de Métrodore ou de quelque autre du même atelier. Et qu'importe qui l'a dit s'il est dit pour tous. Qui a besoin des richesses craint de les perdre. Or, une jouissance inquiète n'en est plus une. On veut ajouter à son bien et, en songeant à l'accroître, on oublie d'en user. On reçoit des comptes, on fatigue le pavé du forum, on feuillette son livre d'échéance. De maître, on se fait intendant. Lettre 15. Des exercices du corps, de la modération dans les désirs. C'était chez nos pères un usage, observé encore de mon temps, d'ajouter au début d'une lettre « Si ta santé est bonne, je m'en réjouis. Pour moi, je me porte bien. » À juste titre aussi, nous disons, nous, « Si tu pratiques la bonne philosophie, je m'en réjouis. » C'est là, en effet, la vraie santé, sans laquelle notre âme est malade, et le corps lui-même, si robuste qu'il soit, n'a que les forces d'un furieux ou d'un frénétique. Soigne donc par privilège la santé de l'âme, que celle du corps vienne en second lieu. Et cette dernière te coûtera peu si tu ne veux que te bien porter. Car il est absurde, cher Lucilius, et on ne peut plus méséant à un homme lettré, de tant s'occuper à exercer ses muscles, à épaissir son encolure, à fortifier ses flancs. Quand ta corpulence aurait pris le plus heureux accroissement et tes muscles les plus belles saillies, tu n'égaleras jamais en vigueur et en poids les taureaux de nos sacrifices. Songe aussi qu'une trop lourde masse de chair étouffe l'esprit et entrave son agilité. Cela étant, il faut, autant qu'on peut, restreindre la sphère du corps et faire à l'âme la place la plus large. Que d'inconvénients résultent de tant de soins donnés au corps. D'abord, des exercices dont le travail absorbe les esprits et rend l'homme incapable d'attention forte et d'études suivies. Ensuite, une trop copieuse nourriture qui émousse la pensée. Puis, des esclaves de la pire espèce que vous acceptez pour maître, des hommes qui partagent leur vie entre l'huile et le vin, dont la journée s'est passée à souhait, s'ils ont bien et dûment sué, et pour réparer le fluide perdu, multiplier ces rasades qui, à jeun, doivent pénétrer plus avant. Boire et suer, régime d'estomac débilité. Il est des exercices courts et faciles qui dérélissent le corps sans trop distraire et ménagent le temps dont avant tout il faut tenir compte. La course, le balancement des mains chargées de quelques fardeaux, le saut en hauteur ou bien en longueur, ou, comme qui dirait, la danse des prêtres saliens, ou, plus trivialement, le saut du foulon. Choisis lequel tu voudras de ces moyens. L'usage te le rendra facile. Mais, quoi que tu fasses, reviens vite du corps à l'âme. Nuit et jour, tu dois l'exercer. On l'entretient sans grande peine. Cet exercice ni froid, ni chaleur ne l'empêchent, ni même la vieillesse. Cultive ce fond que le temps ne fait qu'améliorer. Non que je te prescrive d'être sans cesse courbé sur un livre ou sur des tablettes. Il faut quelque relâche à l'âme, de manière toutefois à ne pas démonter ses ressorts, mais à les détendre. La litière aussi donne au corps un ébranlement qui ne trouble point la pensée. Elle permet de lire, de dicter, de parler, d'écouter, tous avantages que nous laisse même la promenade à pied. Ne dédaigne pas, non plus, la lecture à haute voix. Mais point de ces efforts d'organes qui montent toute l'échelle des tons pour baisser brusquement. Veux-tu même apprendre l'art de déclamer en marchant? Ouvre ta porte à ces gens auxquels la faim a fait inventer une science nouvelle. Ils sauront régler ton allure, observeront le mouvement de tes lèvres et de tes mâchoires, et pousseront la hardiesse aussi loin que ta patiente crédulité les laissera faire. Or, voyons, faudra-t-il que tu débutes par crier et par développer toute la force de tes poumons? Il est si naturel de ne s'échauffer que graduellement, que même ceux qui plaident prennent d'abord le ton ordinaire, avant de passer aux éclats de voix. Aucun ne s'écrie dès l'exorde « À moi, concitoyen !» Ainsi, selon l'idée, l'impulsion du moment soutient le pour, le contre, d'une controverse, ou plus animée ou plus lente, prenant aussi conseil de tes poumons et de ta voix. Toujours mesurée quand tu veux la recueillir et l'appeler, qu'elle descende et ne tombe pas. Qu'elle garde le diapason de l'âme sa régulatrice, qu'elle ne s'emporte pas à l'ignorante et rustique manie de vociférer. Ce n'est pas d'exercer la voix qu'il s'agit, mais de s'exercer par elle. Grâce à moi, te voilà hors d'un grave embarras. Un petit cadeau, un présent d'ami va s'ajouter à ce service. Écoute cette sentence remarquable. La vie de l'insensé n'est qu'ingratitude, qu'anxiété, qu'élancement vers l'avenir. Qui a dit cela? Le même que ci-devant. Oh, de quelle vie parle-t-il selon toi? De quel insensé? De Baba ou d'Ision? Non, il parle de nous, que d'aveugles désirs précipitent vers ce qui nous doit nuire, ou du moins ne nous rassasier jamais. De nous qui, si nous pouvions l'être, serions satisfaits dès longtemps. De nous qui ne songeons pas combien il est doux de ne rien demander. Combien il est beau de dire « J'ai assez, je n'attends rien de la fortune ». Ressouviens-toi maintes fois, cher Lucilius, de tout ce que tu as conquis davantage, et en voyant combien d'hommes te précèdent, songe combien viennent après toi. Si tu ne veux être ingrat envers les dieux et ta destinée, songe à tant de rivaux que tu as devancés. Qu'as-tu à envier aux autres? Tu t'es dépassé toi-même. Fixe-toi une limite que tu ne puisses plus franchir quand tu le voudrais. Tu verras fuir quelque jour ces biens fallacieux, plus doux à espérer qu'à posséder. S'il y avait en eux de la substance, ils désaltéreraient quelquefois. Mais plus on y puise, plus la soif s'en irrite. Ils changent vite l'appareil séduisant du banquet. Et ce qui roule dans ses voiles l'incertain avenir, Pourquoi obtiendrais-je du sort qu'il me le donne, plutôt que de moi de ne pas le demander? Et pourquoi le demanderais-je, oublieux de la fragilité humaine? Pourquoi entasser de nouveaux sujets de labeur? Voici que ce jour est mon dernier jour. Ne le fut-il pas? Il est si proche du dernier. Lettre 16. Utilité de la philosophie, la nature et l'opinion. Il est clair pour toi, Lucilius, je le sais, que nul ne peut mener une vie heureuse ou même supportable sans l'étude de la sagesse. Que la première est le fruit d'une sagesse parfaite, la seconde d'une sagesse seulement ébauchée. Mais cette conviction veut être affermie et enracinée plus avant par une méditation de tous les jours. L'œuvre est plus difficile de rester fidèle à ses plans que de les former vertueux. Il faut persévérer. Il faut qu'un travail assidu accroisse tes forces jusqu'à faire passer dans tes habitudes le bien que rêve ta volonté. Tu n'as donc pas besoin, avec moi, de protestations si prodigues de mots ni si longues. Je vois que tes progrès sont grands. Tes lettres, je sais ce qui les inspire. Elles n'ont ni feinte ni fausse couleur. Je dirai toutefois ma pensée. J'ai bon espoir de toi, mais pas encore confiance entière. Je veux que tu fasses comme moi. Ne compte pas trop vite et trop aisément sur toi-même. Secoue les divers replis de ton âme, scrute et observe. Avant toute chose, vois si c'est spéculativement ou dans la vie pratique que tu as gagné. La philosophie n'est point un art d'éblouir le peuple, une science de parade. Ce n'est pas dans les mots, c'est dans les choses qu'elle consiste. Elle n'est point faite pour servir de distraction et tuer le temps, pour ôter au désœuvrement ses dégoûts. Elle forme l'âme, elle la façonne, règle la vie, guide les actions, montre ce qu'il faut pratiquer ou fuir, siège au gouvernail et dirige à travers les écueils notre course agitée. Sans elle, point de sécurité. Combien d'incidents, à toute heure, exigent des conseils qu'on ne peut demander qu'à elle? Mais, dira-t-on, que me sert la philosophie s'il existe une fatalité? Que sert-elle si un dieu régit tout? Que sert-elle si le hasard commande? Car, changer l'immuable, je ne le puis, ni me prémunir contre l'incertain, qu'un dieu ait devancé mon choix et décidé ce que je devrais faire, ou que la fortune ne me laisse plus à choisir. De ces opinions, quelle que soit la vraie, qu'elle le soit même toute, soyons philosophes. Soit que les destins nous enchaînent à leur inexorable loi, soit qu'un dieu, arbitre du monde, ait tout disposé à son gré, soit que les choses humaines flottent désordonnées sous l'impulsion du hasard, la philosophie sera notre égide. Elle déterminera en nous une obéissance volontaire à Dieu, une opiniâtre résistance à la fortune. Elle t'enseignera à suivre l'un, à souffrir l'autre. Mais ce n'est pas le lieu d'entamer une discussion sur les droits qui nous restent sous l'empire d'une providence ou d'une série de causes fatales qui lient et entraînent l'homme, ou quand le brusque et l'imprévu dominent seul. Je reviens à mon but, qui est de t'avertir, de t'exhorter, à ne point laisser ton mâle courage déchoir et se refroidir. Soutiens-le, et sache le régler, et fais ta manière d'être de ce qui n'est qu'un heureux élan. Dès l'ouverture de cette lettre, si je te connais bien, tu l'auras parcourue de l'œil pour voir si elle apporte quelques petits cadeaux. Cherche bien, tu le trouveras. N'en fais pas honneur à ma générosité. C'est encore du bien d'autrui que je suis libérale. Que dis-je du bien d'autrui? Tout ce qui a été bien dit par quelque autre est à moi. Par exemple, ce mot d'Épicure. Si tu vis selon la nature, tu ne seras jamais pauvre. Si selon l'opinion, jamais riche. La nature désire bien peu. L'opinion voudrait l'infini. Qu'on rassemble sur toi tout ce que des milliers de riches ont pu posséder. Que le sort, t'élevant au-dessus de la mesure des fortunes privées, te couvre de plafonds d'or, t'habille de pourpre, t'amène à ce point de raffinement et d'opulence que le sol disparaisse sous tes marbres, que tu puisses non seulement posséder, mais fouler en marchant des trésors. Ajoute-y statues et peintures, et tout ce que les arts ont élaboré pour le luxe. Tant de richesses ne t'apprendront qu'à désirer plus encore. Les vœux de la nature ont leurs bornes. Ceux que la trompeuse opinion fait naître n'ont pas où s'arrêter. Car point de limite dans le faux. Qui suit la vraie route arrive à un but. Qui la perd s'égare indéfiniment. Retire-toi donc de l'illusoire, et quand tu voudras savoir si ton désir est naturel ou suggéré par l'aveugle passion, vois s'il a quelque part son point d'arrêt. Quand, parvenu déjà loin, toujours il lui reste à pousser au-delà, sache qu'il est hors de la nature. Lettre 17. Tout quitter pour la philosophie. Avantage de la pauvreté. Loin de toi tout cet attirail, si tu es sage, que dis-je, si tu veux l'être, et porte-toi vers la raison à grande vitesse et de toutes tes forces. Si quelque lien t'arrête, ou dénoue-le, ou tranche-le. Qui te retient? Tes intérêts domestiques, dis-tu. Tu peux les régler de telle sorte que ton revenu te suffise sans travail, de peur que la pauvreté ne te pèse, ni toi à personne. En disant cela, tu sembles ne pas connaître la force et la grandeur du bien où tu aspires. Tu vois bien l'ensemble de la chose et à quel point la philosophie est utile. Mais les détails, tu ne les saisis pas encore d'un coup d'œil assez net. Tu ignores combien, en cette situation, elle offre de ressources, et comment, pour parler avec Cicéron, dans les grandes crises, elle nous prête assistance et intervient dans nos moindres embarras. Crois-moi, appelle-la dans tes conseils. Elle te dissuadera de rester assis devant un comptoir. Ce que tu cherches, n'est-ce pas ce que tu veux gagner par tes retards? C'est de n'avoir point la pauvreté à craindre. Et s'il te faut la désirer? Pour combien d'hommes les richesses furent un obstacle à la philosophie? La pauvreté va d'un pas libre, en toute sécurité. Quand le clairon sonne, elle sait qu'on n'en veut pas à elle. Quand retentit le cri d'alarme, elle cherche par où fuir, et non ce qu'elle emportera. A-t-elle à s'embarquer? Elle n'excite pas grand bruit au port, et pour le cortège d'un seul homme, le rivage n'est pas en tumulte. Elle n'a point autour d'elle un peuple d'esclaves pour la nourriture desquels il faille souhaiter que les récoltes d'outre-mer donnent bien. Il est facile d'alimenter un petit nombre d'estomacs bien réglés et qui ne demandent rien qu'à être rassasiés. La faim est peu coûteuse, un palais blasé l'est beaucoup. Il suffit à la pauvreté que ses besoins pressants soient satisfaits. Pourquoi donc la refuserais-tu, cette commensale, dont le régime devient celui de tout riche de bon sens? Qui veut cultiver librement son âme doit être pauvre ou vivre comme tel. Cette culture ne profite qu'aux sectateurs de la frugalité. Or, la frugalité, c'est une pauvreté volontaire. Défais-toi donc de ces vains prétextes. Je n'ai pas encore ce qui me suffirait que j'arrive à telle somme, et je me donne tout à la philosophie. Et c'est cette philosophie qu'il te faut avant tout acquérir. Tu la journes, tu la remets en dernier, elle par qui tu dois commencer. Je veux amasser de quoi vivre. Apprends donc aussi comment il faut amasser. Si quelque chose t'empêche de bien vivre, qui t'empêche de bien mourir? Non, ni la pauvreté n'est faite pour nous enlever à la philosophie, ni l'indigence même. Ceux qui ont hâte d'arriver à elle devront endurer même la faim, combien endurer des populations assiégées. Et quel autre prix voulaient-elles de leur souffrance que de ne pas tomber à la merci du vainqueur? Combien est plus grande une conquête qui promet la liberté perpétuelle et le bonheur de ne craindre ni homme ni Dieu? Oui, fût-ce par les tortures de la faim, c'est là qu'il faut marcher. Des armées se sont résignées à manquer de tout, à vivre de racines sauvages. Des choses dont le seul nom répugne les ont soutenues dans leur dénuement. Tout cela, elles l'ont souffert pour des maîtres, chose plus étonnante, étrangers. Et l'on hésiterait devant une pauvreté qui a franchi l'âme de ses passions furieuses? Ce n'est donc pas d'amasser qu'il s'agit d'abord. On peut, même sans provision de route, arriver à la philosophie. Je te comprends. Quand tu posséderas tout le reste, tu voudras bien avoir aussi la sagesse. Ce sera comme le complément du matériel de ta vie, et pour ainsi dire un meuble de plus. Ah, plutôt, si peu que tu possèdes, fais-toi dès maintenant philosophe, car d'où sais-tu si tu n'as pas déjà trop? Si tu n'as rien, recherche la philosophie avant toute chose. Mais je manquerai du nécessaire. Je dis d'abord non. Cela ne saurait être, tant la nature demande peu. Et le sage s'accommode à la nature. Que si les nécessités les plus extrêmes fondent sur lui, il est prêt. Il s'élance hors de la vie et cesse d'être à charge à lui-même. N'a-t-il pour sustenter cette vie que d'exiguës et étroites ressources? Tant mieux, se dira-t-il, et sans autre souci, sans se mettre en peine que du nécessaire, il payera sa dette à son estomac, couvrira ses épaules, et en voyant les tracas des riches et tant de rivaux dans cette course aux richesses, tranquille et satisfait, il ne fera qu'en rire. Il leur criera: pourquoi remettre si tard à jouir de vous-même? Attendrez-vous les fruits de vos capitaux, les gains de vos spéculations, le testament d'un riche vieillard, quand vous pouvez sur l'heure devenir riche? La sagesse tient lieu de bien à l'homme, car les lui rendre superflus, c'est les lui donner. Ceci s'adresse à d'autres qu'à toi qui es voisin de l'opulence. Change le siècle, tu auras trop. Et dans tout siècle, le nécessaire est le même. Je pourrais clore ici ma lettre, mais je t'ai gâté. Il n'est permis de saluer les trois partes qu'avec un présent. Toi, l'on ne peut te dire adieu sans payer. Qu'ai-je sur moi? Empruntons à Épicure. que d'homme pour qui la sagesse conquise n'a pas été la fin, mais le changement de leur misère. Je n'en suis pas surpris, ce n'est point dans les choses qu'est le mal, c'est dans l'âme. Ce qui lui rendait la pauvreté si lourde fait que les richesses lui pèsent. Comme il est indifférent que l'homme qui souffre soit déposé sur un lit de bois ou sur un lit d'or, n'importe où tu l'as transféré, ses douleurs y passent avec lui. De même, place un esprit malade dans la richesse ou dans la pauvreté. Partout, son mal le suit. Lettre 18. Les Saturnales à Rome. Frugalité du sage. Nous voici en décembre, où plus que jamais Rome sue à se divertir. Le plaisir sans frein est de droit public. Tout retentit des vastes apprêts de la fête, comme si rien ne distinguait les Saturnales des jours de travail. La différence a si bien disparu que, ce me semble, on n'a pas eu tort de dire « Autrefois, décembre durait un mois, à présent c'est toute l'année. » Si je t'avais ici, je causerais volontiers avec toi sur ce qu'à ton sens on doit faire. Faut-il ne rien changer à nos habitudes de chaque jour, ou, pour ne pas paraître faire opposition à l'usage général, faut-il égayer un peu nos soupers et dépouiller la toge? Car ce qui n'avait lieu jadis qu'au temps de troubles et de calamités publiques, maintenant, pour le plaisir, pour des jours de fête, le costume romain est mis bas. Si je te connais bien, tu ferais le rôle d'arbitre, et ne nous voudrais ni tout à fait pareil à cette foule en bonnet phrygien, ni de tout point dissemblable. À moins peut-être qu'en ces jours, plus que jamais, il ne faille commander à son âme de s'abstenir seule du plaisir alors que tout un peuple s'y vautre. Elle obtient la plus sûre preuve de sa fermeté lorsqu'elle ne se porte ni d'elle-même ni par entraînement vers les séductions attirantes de la volupté. S'il y a bien plus de force morale au milieu d'un peuple ivre et vomissant à garder sa faim et sa soif, il y a plus de mesure à ne se point isoler ni singulariser, sans toutefois se mêler à la foule, et à faire les mêmes choses, non de la même manière. On peut, en effet, célébrer un jour de fête sans orgie. Au reste, je me plais tellement à éprouver la fermeté de ton âme que, comme de grands hommes l'ont prescrit, à mon tour, je te prescrirai d'avoir, de temps à autre, certains jours où, te bornant à la nourriture la plus modique et la plus commune, à un vêtement rude et grossier, tu puisses dire « Voilà donc ce qui me faisait peur. » Qu'au temps de la sécurité, l'âme se prépare aux crises difficiles, qu'elle s'aguerrisse contre les injures du sort, au milieu même de ses faveurs. En pleine paix, sans ennemi devant soi, le soldat prend sa course, fiche des palissades et se fatigue de travaux superflus pour suffire un jour au nécessaire. Celui que tu ne veux pas voir trembler dans l'action, exerce-le avant l'action. Voilà comment font les hommes qui, vivant en pauvres tous les mois de l'année, se réduisaient presque à la misère pour ne plus craindre ce dont ils auraient fait souvent l'apprentissage. Ne crois pas qu'ici je te conseille ces repas à la Timon, ni ces cabanes du pauvre, ni aucune de ces fantaisies raffinées dont la richesse amuse son ennui. Je veux pour toi un vrai grabat, un saillon, un pain dur et grossier. Soutiens ce régime 3 et 4 jours, quelquefois plus, n'en fais pas un jeu, mais une épreuve. Alors crois-moi, Lucilius, tu tressailliras de joie quand, pour deux as, tu seras rassasié. Tu verras que pour être tranquille sur l'avenir, on n'a nul besoin de la fortune, car elle nous doit le nécessaire même dans ses rigueurs. Ne te figure pas toutefois que tu auras fait merveille. Tu auras fait ce que tant de milliers d'esclaves, tant de milliers de pauvres font. À quel titre donc te glorifier? C'est que tu l'auras fait sans contrainte, et qu'il te sera aussi facile de le souffrir toujours que de l'avoir essayé un moment. Exerçons-nous à cette escrime, et pour que le sort ne nous prenne pas au dépourvu, rendons-nous la pauvreté familière. Nous craindrons moins de perdre la richesse si nous savons combien peu il est pénible d'être pauvre. Le grand maître en volupté, Épicure, avait ses jours marqués où il fraudait son appétit afin de voir s'il lui manquerait quelque chose pour la parfaite plénitude de la jouissance, ou combien il lui manquerait, et si ce complément valait toute la peine qu'il aurait coûté. C'est du moins ce qu'il dit dans les lettres qu'il écrivit sous l'archonte Carinus à Polyaenos. Et il ajoute avec orgueil, « Moins d'un as suffit pour me nourrir. » Maître d'or n'est pas aussi avancé. Il lui faut l'as entier. Crois-tu qu'un tel régime puisse se rassasier? On y trouve même une jouissance, et une jouissance non point légère d'un moment, et qu'il faille toujours étayer, mais stable et assurée. Ce n'est pas en soi une chose douce que l'eau claire et la bouillie, ou un morceau de pain d'orge, mais c'est un plaisir suprême d'en pouvoir retirer encore du plaisir et de s'être restreint à ce que ne saurait nous ravir le plus inique destin. On nourrit d'une main plus libérale le prisonnier. Ceux qu'on réserve pour la peine capitale sont traités avec moins d'épargne par l'homme qui doit les mettre à mort. Quelle est grande l'âme qui sait descendre spontanément au-dessous même de ce qu'aurait à craindre des condamnés au dernier supplice. Voilà désarmée d'avance la fortune. Commence donc, cher Lucilius, à suivre la pratique de ces sages. Prescris-toi, certains jours, pour quitter ton train ordinaire et t'accommoder de la plus mince façon de vivre. Commence, fraternise avec la pauvreté. Ose mépriser l'or, ô mon hôte, et d'un dieu fais-toi le digne émule. Nul autre le peut l'être que le contempteur de l'or. Je ne t'en interdis pas la possession, mais je veux t'amener à le posséder sans alarme. Et tu n'as pour y parvenir qu'un moyen. Te convaincre que tu vivras heureux sans la richesse, et l'avoir toujours comme prête à t'échapper. Mais il faut songer à plier ma lettre. Auparavant, dis-tu, paye ta dette. Je te renverrai à Épicure. C'est lui qui te soldera. L'extrême colère engendre la folie. Pour bien sentir cette grande vérité, il suffit d'avoir eu un esclave ou un ennemi. C'est contre les hommes de tout rang que cette fièvre s'allume. Elle naît de l'amour, elle naît de la haine, au milieu des choses sérieuses, comme parmi les jeux et les ris. Le point essentiel n'est pas la gravité pour ses motifs, mais le caractère où elle entre. Ainsi, peu importe qu'un feu soit plus ou moins actif, la matière où il tombe fait tout. Il est des corps massifs que la plus vive flamme ne pénètre pas. Comme il en est de tellement secs et combustibles qu'une étincelle même s'y nourrit jusqu'à former un incendie. Oui, cher Lucilius, l'extrême colère aboutit au délire. Et il faut la fuir, moins encore pour garder la mesure que pour sauver notre raison. Lettre 19. Quitter les hauts emplois pour le repos. Je tressaille de joie chaque fois que je reçois de tes lettres. Elles me remplissent d'un bon espoir. Ce ne sont plus des promesses, ce sont des garanties. Persévère, je t'en prie, je t'en conjure. Car qu'ai-je de mieux à demander à un ami que de le prier pour lui-même? Dérobe-toi, s'il est possible, au tracas des affaires. Sinon, romps avec elle. Voilà bien assez de jours gaspillés. Commençons, vieux que nous sommes, à plier bagage. Sera-ce faire ombrage à personne? Nous avons vécu dans la tourmente, allons mourir au port. Non que je te conseille la retraite comme moyen de renommée. Il n'y faut mettre ni gloire ni mystère. Jamais en effet je ne te réduirai, tout en condamnant la folie des hommes, à chercher un antre et l'oubli. Tâche que ton renoncement n'ait pas trop d'éclat, mais se laisse voir. D'autres, dont le choix, à cet égard, est libre et encore à faire, verront s'il leur convient de passer leur vie dans l'obscurité. Pour toi, cela n'est plus possible. Te voilà produit au grand jour par la vigueur de ton génie, par tes écrits si pleins de goût, par de nobles et illustres amitiés. La célébrité s'est emparée de toi. Fusses-tu plongé comme perdu dans la retraite la plus reculée, tes premières traces te décelleraient encore. Tu ne peux plus jouir des ténèbres. Tu emporteras, n'importe où tu fuiras, presque tout l'éclat de ton passé. Tu peux prétendre au repos sans que personne t'en veuille, sans regret ni remords de conscience. Que quitteras-tu dont l'abandon puisse être amer à ta pensée? Tes clients? Aucun ne te suit pour toi-même, tous pour quelque chose attiré de toi. Tes amis? Jadis on recherchait l'amitié, maintenant on court à la proie. Des vieillards qui ne te verront plus changeront leur testament. Tes flatteurs iront saluer d'autres seuils. Un grand bien ne saurait coûter peu. Calcule à quoi tu veux renoncer. À toi-même ou à une portion de ce qui est à toi. Que ne te fut-il donné de vieillir dans la sphère modeste où tu pris naissance? Et pourquoi la fortune t'a-t-elle porté si haut? Tu as perdu de vue l'existence salutaire à l'âme, emportée par tes rapides avantages, gouvernement de province, intendance et tout ce que promettent ces titres. De plus grandes charges encore t'invitent, et après celles-là, d'autres. Quel sera le terme? Qu'attends-tu pour t'arrêter? Ce moment n'arrivera jamais. Il est, disons-nous, une série de causes dont la trame forme les destins. Ainsi s'étend la chaîne des désirs. Ils naissent de la fin l'un de l'autre. Telle est la vie où tu es plongé, que jamais d'elle-même elle ne terminera tes misères et ta servitude. Dérobe ou joue ta tête meurtrie. Mieux vaudrait qu'elle fût tranchée une fois qu'incessamment courbée. Si tu reviens à la vie privée, tout y sera sur une moindre échelle, mais te satisfera pleinement. Ce que ne font pas aujourd'hui les torrents de jouissance qui affluent chez toi de toutes parts. Préfères-tu donc à une pauvreté qui rassasie une abondance famélique? La prospérité est avide et en but à l'avidité d'autrui. Tant que rien ne t'aura suffi, toi-même, tu ne suffiras point aux autres. Comment sortir de cette position? Comme tu pourras. Songe combien de hasard, l'argent, combien de travaux, les honneurs t'auront fait braver. Ose enfin quelque chose pour le repos. Sinon, condamné aux soucis des gouvernements de province, puis des magistratures urbaines, tu vieilliras dans le tracas, dans des tourmentes toujours nouvelles. Il n'est réserve ni douceur de mœurs assez heureuse pour y échapper. Qu'importe en effet que tu veuilles le repos, ta fortune ne le veut pas. Et si tu lui permets de grandir encore, à quelque progrès qu'elle s'élève, il y aura progrès dans ta crainte. Je veux ici te rapporter un mot de Mécène, qui, dans les tortures de la grandeur, poussa ce cri de vérité. Oui, leur hauteur même foudroie les sommets. Tu demandes dans quel livre il a dit cela? Dans celui qui a pour titre Prométhée. Il a voulu dire « Les hauteurs ont leur sommet foudroyé ». Est-il pouvoir au monde au prix duquel tu voulus s'afficher une telle ivresse de style? Mécène avait du génie. Il eût enrichi d'un grand modèle l'éloquence romaine si sa haute fortune ne lui eût ôté sa force, disons le mot, sa virilité. Voilà ce qui t'attend si tu ne te hâtes de plier la voile, et ce qu'il a vu trop tard, de raser le rivage. J'aurais pu, moyennant cette sentence de Mécène, balancer mes comptes avec toi, mais tu me chercheras chicane si je te connais bien. Tu ne voudras ton remboursement qu'en pièces de beau relief et de bon aloi. Selon l'usage, c'est sur Épicure que je dois tirer. Examine bien, dit-il, avec qui tu dois manger et boire, avant de penser à ce que tu boiras et mangeras. Car manger la victime sans un ami, c'est vivre comme les lions et les loups. Un ami. Tu ne l'obtiendras que dans la retraite. Ailleurs, tu auras des convives triés et classés par le nomenclateur dans la foule qui vient te saluer. Il se méprend fort celui qui cherche des amis dans son antichambre et qui les éprouve à sa table. Il n'est pire malheur pour l'homme obsédé d'occupation et de richesse que de croire à l'amitié de gens qui n'ont point la sienne ou à l'efficacité de ses bienfaits pour se la concilier. Souvent, plus on nous doit, plus on nous hait. Une légère dette fait un débiteur, une lourde somme un ennemi. Et quoi? Les bienfaits n'engendrent pas l'amitié. Si fait, quand on peut choisir à qui l'on donne, quand on les place, qu'on ne les sème point au hasard. Ainsi, tandis que tu travailles à t'appartenir complètement, mets toujours à profit ce conseil des sages. Attache plus d'importance au caractère de l'obligé qu'à la nature de l'obligation. Lettre 20. Même sujet, inconstance des hommes. Si ta santé est bonne, et si tu te crois digne de devenir quelque jour ton maître, je m'en réjouis. Et ce sera ma gloire si j'ai pu te sauver de ce gouffre où tu flottais sans espoir d'en sortir. Mais je te prie d'une chose, cher Lucilius, et je t'y exhorte. Ouvre à la philosophie les plus intimes parties de ton âme et prends pour mesure de tes progrès non tes discours ni tes écrits, mais l'affermissement de tes principes et la diminution de tes désirs. Prouve tes paroles par tes actes. Bien différent est le but de ces déclamateurs qui ne veulent que capter les suffrages d'une coterie, de ces ergoteurs qui amusent les oreilles de la jeunesse et des oisifs en voltigeant d'un sujet à l'autre avec une égale volubilité. La philosophie enseigne à faire, non à parler. Ce qu'elle exige, c'est que tous vivent d'après sa loi, que la vie ne démente point les discours et que la teinte de toutes nos actions soit une. Voilà le premier devoir de la sagesse et son plus sûr indice, la concordance du langage avec la conduite, et que l'homme soit partout égal et semblable à lui-même. Qui remplira cette tâche? Peu d'hommes, mais enfin quelques-uns. La chose est difficile, et je ne dis point que le sage ira toujours du même pas, mais il tiendra la même route. Prends donc bien garde, si ton costume ne contraste point avec ta demeure. Si, libéral pour toi-même, tu n'es point avare pour les tiens. Si, frugal dans tes repas, tu ne bâtis point somptueusement. Une fois pour toutes, fais choix de la règle où l'ensemble de ta vie doit s'adapter. Tel se restreint dans son particulier, qui s'étend et représente largement au dehors. Vicieuse disparate, symptôme d'un esprit vacillant, qui n'a point encore son assiette. Un autre motif que je vais donner d'une telle inconséquence et de cette bigarrure entre les actes et les volontés, c'est que nul ne se propose bien ce qu'il veut, ou s'il le fait, il n'y persiste point et passe outre. Puis échanger ne suffit plus. Il revient sur ses pas et retombe dans ce qu'il vient de fuir et de condamner. Laissant donc de côté les anciennes définitions, et pour embrasser tout le système de la vie humaine, j'ai pu me borner à dire en quoi consiste la sagesse. À toujours vouloir ou ne pas vouloir la même chose. Il n'est pas besoin d'ajouter la brève condition pourvu que nos vouloirs soient justes, car la même chose ne peut toujours plaire au même homme si elle n'est juste. Or, le vulgaire ne sait ce qu'il veut qu'au moment où il le veut. Nul n'a une bonne foi décidé ce qu'il voudra ou ne voudra pas. Nos jugements d'un jour à l'autre varient et se contredisent. Chacun presque traite la vie comme un jeu de hasard. Tiens donc ferme à ton œuvre ébauchée, et peut-être atteindras-tu à la perfection, ou à ce degré que toi seul sentiras ne pas être la perfection. Tu t'inquiètes de ce que deviendra la foule de tes familiers. N'étant plus nourrie par toi, elle se nourrira elle-même, et ce que tout seul tu ne démêlerais point, la pauvreté te l'apprendra. Elle retiendra près de toi les sûrs, les vrais amis, tandis que s'éloigneront tous ceux qui cherchaient en toi autre chose que toi. Et ne saurait-on aimer la pauvreté, même à ce seul titre, qu'elle nous fait voir qui nous aime? Oh, quand viendra le jour où nul ne mentira plus pour te faire honneur. Voici donc où doivent tendre tes réflexions, tes soins, tes souhaits, en quittant Dieu de tout le reste. Vivre content de toi-même et des biens que tu puiseras en toi. Est-il un bonheur plus à ta portée? Descends à l'humble rang d'où la chute n'est plus possible. Et pour que tu le fasses de meilleur cœur, je rattacherai à mon texte le tribut de cette lettre que j'acquitte à l'instant. Dusses-tu m'en vouloir, c'est encore Épicure qui se charge de l'avancer pour moi. Tes discours imposeront bien plus, crois-moi, prononcés de ton grabat et sous les haillons. ce ne seront pas des mots seulement, mais des exemples. Moi, du moins, je suis bien autrement frappé de ce que dit notre Démétrius quand je le vois nu et couché, ce qui n'est pas même un chétif matelas. Il n'est plus précepteur de la vérité, il en est le vivant témoin. Quoi ? Ne suffit-il donc pas, quand on a les richesses, de les mépriser ? Pourquoi non ? Celui-là aussi a l'âme grande qui, les voyant affluer autour de lui, frappé d'une longue surprise, ne peut que rire de ce qu'elle lui soit venue et entend dire qu'elle lui appartienne plutôt qu'il ne s'en aperçoit. Il est beau de n'être pas gâté par la compagnie des richesses. Il y a de la grandeur à rester pauvre au milieu d'elles, mais plus de sécurité à ne les avoir pas. Je ne sais, diras-tu, comment ce riche supportera la pauvreté s'il y tombe. Ni moi, comment ce pauvre, cet émule d'Épicure, s'il vient à tomber dans la richesse, la méprisera. C'est donc chez tous les deux l'âme qu'il faut apprécier. Il faut démêler si l'un se complaît dans la pauvreté, si l'autre ne se complaît pas dans sa richesse. Autrement, faible preuve d'une résolution franche qu'un grabat ou des haillons, s'il n'est pas évident que c'est par choix, non par nécessité qu'on s'y est réduit. Au reste, il est d'une âme généreuse, sans y courir comme à un état meilleur, de s'y préparer comme à une chose facile. Oui, facile, cher Lucilius, agréable même, quand on l'aborde après longue et mûre réflexion. Car là se trouve un bien sans lequel rien ne nous agrée. La sécurité. C'est pourquoi j'estime nécessaire, comme je t'ai écrit que de grands hommes l'ont fait, de prendre par intervalle quelques jours, où par une pauvreté fictive, on s'exerce à la véritable. Ce qu'il faut pratiquer, d'autant plus que la mollesse a détrempé tous nos ressorts et nous fait tout juger dur et difficile. Ah, réveillons-nous de notre sommeil, aiguillonnons notre âme et lui rappelons quel fond modique la nature constitue à l'homme. Nul n'est riche en naissant. Quiconque vient à la lumière est tenu de se contenter de lait et d'un lambeau de toile. Et après de tels commencements, des royaumes sont pour nous trop étroits. Lettre 21. Vraie gloire du philosophe. Éloge d'Épicure. Tu as fort à faire, penses-tu, contre les obstacles dont parle ta lettre. Ta plus grande affaire est avec toi-même, c'est toi qui te fais obstacle. Incertain de ce que tu veux, tu sais mieux approuver ce qui est honorable que le suivre. Tu vois où réside la félicité, mais tu n'oses aller jusqu'à elle. Ce qui t'arrête, tu ne t'en rends pas bien compte. Je vais te le dire. Tu trouves grand les sacrifices que tu vas faire. Et quand tu t'es donné pour but la sécurité à laquelle tu es prêt de passer, tu es retenu par tout cet éclat d'une vie qui va recevoir tes adieux, comme si, de là, tu devais tomber dans une obscure abjection. Erreur, Lucilius. De ta vie à la vie du sage, on ne peut que monter. Comme la lumière se distingue de ses reflets, car elle émane d'un foyer certain qui lui est propre, et ceux-ci ont un éclat d'emprunt, ainsi la vie dont je parle diffère de la tienne. Ce qui brille en la tienne, c'est du dehors qu'elle l'a reçu. La moindre interposition l'éclipse et l'obscurcit soudain. la vie du sage resplendit de ses seuls rayons. De tes études en sagesse viendra ton vrai lustre, ton anoblissement. Rapportons ici un mot d'Épicure. Dans une lettre à Idoménée, que de vaines pompes de sa charge il rappelait à la fidèle et solide gloire, il disait à ce ministre d'un pouvoir inflexible, à cet homme qui tenait les rênes d'un grand empire, « Si c'est la gloire qui te touche, tu seras plus connu par ma correspondance que par toutes ces grandeurs que tu courtises et pour lesquelles tu es courtisé. » Et n'a-t-il pas dit vrai? Qui connaîtrait Idoménée si Épicure n'avait buriné ce nom dans ses lettres? Tous ces grands, ces satrapes et le grand roi lui-même, duquel Idoménée empruntait son relief, un profond oubli les a dévorés. Les lettres de Cicéron ne permettent pas que le nom d'Atticus périsse. Il ne servait de rien à Atticus d'avoir eu pour gendre Agrippa, pour mari de sa petite-fille Tibère, Drusus César pour arrière-petit-fils. Au milieu de ces noms célèbres, nul ne parlait de lui si le grand orateur ne se l'était pas associé. L'océan des âges viendra s'amonceler sur nous. Quelques génies élèveront leur tête, et avant de mourir un jour ou l'autre dans le même silence, lutteront contre l'oubli et sauront longtemps se défendre. Ce qu'Épicure a pu promettre à son ami, je te le promets à toi, Lucilius. J'aurai crédit chez la postérité. Il m'est donné de faire durer les noms que j'emporte avec moi. Notre Virgile a promis à deux jeunes hommes une mémoire impérissable, et il tient parole. Couple heureux, si mes vers sont faits pour l'avenir, jamais ne s'éteindra votre doux souvenir, tant que Capitole, à sa roche immortelle, enchaînera le monde et la ville éternelle. Tous les hommes que la fortune a poussés sur la scène, tous ceux qui furent les dépositaires et les bras du pouvoir, ont vu leur crédit prospère, leur palais hanté de flatteurs, tant qu'eux-mêmes sont restés debout. Après eux, leur mémoire s'est promptement éteinte. Mais le génie, sa gloire, croît sans cesse, et en outre, de nos hommages que lui-même recueille, tout ce qui se rattache à sa mémoire est bienvenu. Il ne faut pas qu'Idoménée soit gratuitement arrivé sous ma plume. Il payera le port de ma lettre. C'est à lui qu'Épicure adresse cette remarquable pensée pour le dissuader d'enrichir Pythoclès par la voie ordinaire, toujours douteuse. Si tu veux enrichir Pythoclès, n'ajoute point à son avoir, retranche à ses désirs. Pensée trop claire pour qu'on l'interprète, trop bien rendue pour qu'on l'appuie de réflexion. Je ne te ferai qu'une observation. Ne crois pas que ce mot soit dit seulement pour les richesses. À quoi qu'on l'applique, il aura la même force. Veux-tu rendre Pythoclès honorable? N'ajoute point à ses honneurs, retranche à ses désirs. Veux-tu que Pythoclès jouisse perpétuellement? N'ajoute pas à ses jouissances, retranche à ses désirs. Veux-tu que Pythoclès arrive à la vieillesse et à une vie pleine? N'ajoute point à ses années, retranche à ses désirs. Ne crois pas que ces maximes appartiennent en propre à Épicure, elles sont à tout le monde. Ce qui se fait souvent au Sénat doit se faire aussi, ce me semble, dans la philosophie. Quelqu'un ouvre-t-il un avis que je goûte en partie? Divisez-le, lui dis-je, et je suis pour vous quant au point que j'approuve. Si je cite volontiers toute noble parole d'Épicure, C'est surtout pour les gens qui se réfugient dans sa doctrine, séduits par un coupable espoir, s'imaginant trouver là un voile à leur vice. Je veux leur prouver que n'importe le camp où ils passent, il leur faut vivre vertueusement. Lorsqu'ils approcheront de ces modestes jardins, de l'inscription qui les annonce, passant, tu feras bien de rester ici. Ici, le suprême bonheur est la volupté. Il sera obligeant le gardien de cette demeure, hospitalier, affable. C'est avec de la bouillie qu'il te recevra. L'eau te sera largement versée, et il te demandera si tu te trouves bien traité. Ces jardins, dira-t-il, n'excitent pas la faim, ils l'apaisent. Ils n'allument pas une soif plus grande que les moyens de la satisfaire. Ils l'éteignent par un calmant naturel et qui ne coûte rien. Voilà dans quelle volupté j'ai vieilli. Je ne parle ici que de ces désirs qui n'admettent point de palliatifs, auxquels il faut quelques concessions pour qu'ils cessent. Pour ceux qui sortent de la règle, qu'on peut remettre à plus tard ou corriger et étouffer, je ne dirai qu'un mot. Cette volupté, bien que dans la nature, n'est point dans la nécessité. Tu ne lui dois rien. Si tu lui fais quelque sacrifice, il sera bénévole. L'estomac est sourd aux remontrances. Il réclame, il exige son dû. Ce n'est pas toutefois un intraitable créancier. Pour peu de choses, il nous tient quitte. Qu'on lui donne seulement ce qu'on doit, non tout ce qu'on peut.